Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Et l'occasion, une dernière fois pour moi, après j'arrête, de vous remercier. Plus 31% de part d'audience par rapport à la dernière vague Médiamétrie. On est trop contents, toute l'équipe. Tiens, justement, vous retrouverez Hélène Manarino et son portrait. Ce sera aux alentours de 10h20, mais également Bertrand Chamerois pour son écran de veille. Il est rentré de vacances, mais il a laissé son bungalow de vacances à Eva Rock. Et c'est Clémence Olivier qui va remplacer Eva toute la semaine pour le zapping du lendemain. Et avant cela, dans quelques instants, fidèles au poste, le journal des médias d'Antoine Janton et les audiences avec Louise Bernard. Quel casting! Notre infomédia, après le carton cet été des deux numéros spéciaux du magazine Society, c'est BFM qui sort un document en trois parties sur Xavier Dupont de Ligonnès. Nous serons avec Isabelle Quintard, c'est la réalisatrice du doc, et Céline Pigalle, directrice de la rédaction de la chaîne. Et puis nos invités, le comédien Lou Denis Hélion qui fait son entrée dans Clem, la série de TF1 autour d'une lycéenne entrée dans la vie active depuis le temps. La nouvelle saison, c'est la 11e, démarre ce soir. Nous serons également avec le producteur Fabrice Renaud qui nous dira comment on fait pour se renouveler ou pas après 10 saisons. Enfin, le groupe 47 Terres, groupe phénomène entre rap et pop loin des cités qui remplit les zéniths et affole les compteurs sur les réseaux sociaux. Pour vous dire, il y a 4 ans, le chanteur travaillait encore au McDo. Leur nouvel album porte bien son nom, Légende. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, dites-moi, elles sont bonnes les audiences? J'ai pas compris.
Elles sont bonnes, j'arrête, je me suis dit, c'est tombé jeudi, je l'ai dit jeudi, le vendredi, on est lundi, maintenant j'arrête jusqu'à la prochaine vague.
Il y a quelqu'un qui vous porte chance.
Bonjour, beaucoup de gens nous portent chance. Bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Blague à part Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Oui, une chaîne éphémère qui va durer un peu plus longtemps que prévu, et de retour, celui probable d'un présentateur accusé de harcèlement et d'agression sexuelle, et puis celui certain aujourd'hui d'une émission de TF1.
Mais d'abord les audiences avec vous Louise. On est lundi, qu'ont regardé les Français hier soir?
Eh bien c'est TF1 qui a écrasé la concurrence, hein. 5 700 000 téléspectateurs devant le film Ant-Man et la Guêpe. C'était le deuxième volet, hein. Le premier était diffusé la semaine dernière. Et donc c'est un meilleur score encore que la semaine dernière. Et je vous donne aussi la part d'audience, 23,7%. Loin derrière France 3 avec la suite de sa série allemande Meurtre en eau trouble. Alors c'était l'épisode 8, c'est une petite bizarrerie de la programmation. Les premiers épisodes étaient diffusés en août 2019, l'épisode 1 à 7. Et donc là, c'était le huitième qui arrivait
comme
que
ça.
Maintenant. Mais ça marche très
comme
bien.
Comme un cheveu sur le goulash.
Exactement. Le premier épisode était à 3 300 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience. Avec une rediffusion de l'épisode 1, ça fait une moyenne à 2 400 000 téléspectateurs, 2,4% de part d'audience. Puis c'est M6 avec le magazine Capital. Pas un score, pas en très grande forme. Hein. 2 150 000 téléspectateurs, 9,2% de part d'audience. À noter, très bon score de France 5 avec
une soirée spéciale
sur Elisabeth II, la case du siècle. 1 760 000 téléspectateurs.
Et ce week-end, parce qu'on est lundi, on va commencer par les audiences de samedi.
Alors le week-end, ce sont des duels. Le samedi soir, c'est TF1 contre France 3. Ces deux dernières semaines, c'est France 3 qui était leader. Et cette semaine, ça y est, TF1 a repris sa place de numéro 1 avec The Voice. Hein, The Voice qui fait pourtant le même score que la semaine dernière. 4 600 000 téléspectateurs. C'est la série de France 3, Mangeville, qui perd un petit peu en nombre de téléspectateurs. 4 200 000 au lieu de 5 millions.
Et le deuxième match du week-end, donc vendredi soir.
On est toujours pour Koh-Lanta sur TF1 en face de la redoutable Capitaine Marlowe récemment arrivée sur France 2. Ça faisait deux semaines que la fiction de la 2 devançait largement TF1 et vendredi soir, bien l'écart s'est resserré. Marlowe est toujours en tête sur le nombre de téléspectateurs, mais de peu, hein, de très peu, moins de 80 000 téléspectateurs les séparent. Et sur la part d'audience, c'est le jeu d'aventure qui devance la Capitaine, hein, 24,6% contre 21,3% parce que Koh-Lanta dure plus longtemps. Précision importante quand même, c'était une rediffusion de Capitaine Marlowe.
Voilà. Culture Média.
Place au journal des médias maintenant avec vous Antoine, avec à la une Darius Rochebain qui pourrait bientôt faire son retour sur LCI.
Ouais, dès la semaine prochaine, hein, selon plusieurs journaux, la décision de la direction doit être annoncée à la rédaction de LCI aujourd'hui en fin de matinée, 3 jours après que le présentateur suisse a été mis hors de cause dans une affaire de harcèlement et d'agression sexuelle à la RTS, une affaire révélée par le journal suisse Le Temps. L'enquête interne lancée par la RTS, un groupe pour qui Darius Rochebain a travaillé jusqu'à l'an dernier, n'a rien trouvé. Elle ne permet pas de conclure à des actes relevant de harcèlement ou d'infraction pénale, indique la RTS, une enquête interne qui a été quand même critiquée en Suisse.
La chaîne éphémère Culture Box va continuer.
Au moins jusqu'en août, alors qu'elle devait s'arrêter à la fin du mois, c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Culture dans un communiqué ce week-end. Mais attention, Culture Box ne sera plus disponible alors sur le canal 19 de la TNT, mais sur le canal 14, celui de France 4, et uniquement en soirée à partir de 20h. Ce changement sera effectif dans une dizaine de jours, le 1er mai. Culture Box qui a été créée fin janvier par France Télévisions pour soutenir le secteur culturel durement touché par la crise sanitaire, pourrait par ailleurs proposer des captations de festivals cet été.
Et puis le focus programme du jour, c'est le retour d'une émission de mariage sur TF1.
Bienvenue aux mariés, c'est son titre, émission sur les préparatifs de mariage dont le principe est le suivant. Un couple visite 4 lieux de réception différents et doit les départager pour choisir celui qui accueillera finalement son mariage. Cette émission n'avait pas été diffusée l'an dernier. Elle revient donc à partir d'aujourd'hui avec deux nouveautés. L'horaire d'abord, elle passe de 18h10 à 15h35 et l'arrivée d'Élodie Vilmus dans l'émission, vous la connaissez peut-être, hein, c'est elle qui a présenté 4 mariages pour une lune de miel sur TF1 également. Émission dans laquelle des mariés jugeaient le mariage des autres, les échanges y étaient parfois, allez, on va dire, un peu durs. Rien à voir avec Bienvenue aux mariés donc, selon Élodie Vilmus.
C'est deux traitements différents, la compétition là, elle est entre les lieux de réception, pas entre les mariés. Ces lieux de réception-là sont des professionnels, ils ont tout intérêt à montrer leur excellence dans le service qu'ils donnent, donc c'est peut-être un petit peu plus maîtrisé, je dirais. Mais en tous les cas, ces deux programmes, je les aime parce qu'ils proposent deux phases très importantes de mon métier et je me plais vraiment à aller expliquer ça et aux téléspectateurs et à ces futurs mariés et aussi donner ma vision au lieu de réception.
Une vision de professionnel expérimenté. Ça fait 13 ans qu'Élodie Vilmus organise des mariages. Elle sera là donc pour conseiller et guider les couples de fiancés dans leur choix, mais aussi donc aider les lieux de réception, parfois débutants sur le marché. Marché et secteur du mariage à l'arrêt en ce moment à cause de la pandémie. Mais malgré cela, Élodie Vilmus trouve que la diffusion de l'émission tombe à pic.
Je suis bien contente que la diffusion ait lieu là, en cette période-là, pour donner encore justement espoir aux gens, leur montrer cette richesse que nous avons en France de tous ces lieux. Enfin, c'est juste exceptionnel, vraiment. Ça fait 13 ans que je fais ce métier. J'ai été époustouflée par la qualité de pas mal de lieux dans ce programme. Et puis, on parle de l'amour, on parle de deux personnes qui vont se souvenir. C'est des regards, c'est des sourires. C'est un message très fort, vraiment. Cette émission, en cette période actuelle, est un vrai cadeau.
Élodie Vilmus qui accompagne les candidats de Bienvenue aux mariés, diffusée donc à partir d'aujourd'hui sur TF1. Rendez-vous à 15h35. Deux épisodes inédits à la suite du lundi au vendredi.
France 2 va arrêter les jeux présentés par Laurence Boccolini.
Vous ne verrez plus mot de passe ou encore un mot peut en cacher un autre à la rentrée en septembre. Deux jeux diffusés le matin à partir de 9h55 et bientôt arrêtés donc pour des raisons budgétaires selon le Parisien. Cela dit, Laurence Boccolini ne serait pas en danger, toujours d'après le quotidien. Elle serait en bonne voie et en bonne place pour récupérer l'animation de tout le monde veut prendre sa place, que Nagui a décidé d'arrêter de présenter.
Et puis une série sur une actrice culte d'Hollywood.
Audrey Hepburn, que vous entendez chanter Moon River dans le film Diamant sur canapé, merveilleux film, Breakfast at Tiffany's en anglais. Ça peut paraître étonnant, mais c'est la première fois que la vie de l'actrice sera portée à l'écran. Ce sera donc une série intitulée Audrey, tout simplement. Série qui s'appuiera en grande partie sur le récit de son fils Luca Dotti, qui a publié un livre en 2015. À l'écriture, l'américaine Jacqueline Hoyt, productrice de plusieurs séries à succès comme The Leftovers, The Good Wife ou Les Experts, et puis à la production, une société italienne, Wildside, je prononce bien. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais on lui doit pourtant des séries importantes comme The Young Pope et L'Ami prodigieuse. On ne connaît pas encore la date, ni la chaîne ou la plateforme de diffusion, mais cette série est destinée au monde entier, d'après la société de production.
Et la comédienne, on la connaît ?
Non, pas encore.
Parce que jouer Audrey Hepburn, dis donc, faut y arriver. Hein. Toutes ces infos, on va les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1. C'est pour vous, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Merci beaucoup Louise Bernard, merci Antoine Janton.
À demain
pour un nouveau journal des médias
à tout à l'heure.
Et les audiences. Et à tout
Je
à l'heure pour vous, Louise.
Évidemment,
dans un instant, notre info média du jour, une série documentaire inédite sur une affaire qui passionne les Français depuis maintenant 10 ans, l'affaire Dupont de Ligonnès. Nous en parlons avec la co-réalisatrice de ce doc, Isabelle Quintard, et la directrice de la rédaction de BFM TV, Céline Pigalle. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est l'affaire criminelle la plus mystérieuse de ce début de siècle en France. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès effraie autant qu'elle fascine. Une mère et ses quatre enfants drogués puis abattus, un père suspect numéro 1 qui a disparu, sans avoir laissé suffisamment de traces pour qu'on sache ce qu'il est devenu. C'était il y a 10 ans pendant lesquels l'enquête a un peu avancé et beaucoup tâtonné. Elle a suivi quelques pistes, elle en a oublié d'autres. Et c'est sur elle et plus largement sur cette affaire hors norme que revient une série documentaire inédite diffusée ce soir sur BFM TV, Dupont de Ligonnès. Et s'il était en vie, point d'interrogation. Bonjour Céline Pigalle.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes la directrice de la rédaction de BFM TV. Avec vous Isabelle Quintard, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez réalisé cette série documentaire pour BFM avec Régis Desconclois et Simon Terrassier. Avant d'en parler plus en détail, Isabelle Quintard, en quelques mots, pour qui reviendrait de la planète Mars, les faits. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès ?
C'est une tuerie familiale qui est assez inédite en France. C'est un homme, un père de famille, qui est soupçonné d'avoir tué ses quatre enfants, sa femme, le 3 avril, dans la nuit du 3 avril 2011. Il disparaît le 15 avril. On retrouve sa voiture le 21 avril 2011 et on n'a plus de traces de lui depuis.
Céline Pigalle, cette série documentaire comporte 3 épisodes de 26 minutes, tous diffusés ce soir dans l'émission Ligne rouge sur BFM, une série sans voix off, sans commentaires. Les seules paroles qu'on entend sont celles de la douzaine de personnes que vous interrogez, des proches de Xavier Dupont de Ligonnès, des journalistes, un ancien enquêteur entre autres. Pourquoi avoir fait ce choix éditorial ?
D'abord parce que BFM TV a toujours le souci d'innover, de chercher de nouvelles formes, de chercher de nouvelles écritures, de se positionner finalement alors qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent de raconter l'information de manière différente. Et puis aussi, parce qu'au fond, ce qu'on propose aux téléspectateurs, c'est de se faire sa propre idée. Et donc, il n'y a pas de commentaires. On vous donne tous les éléments d'information. Et puis, on vous laisse vous faire votre avis, votre opinion sur ce qui a pu se passer et sur la question essentielle. Xavier Dupont de Ligonnès, est-il vivant ou s'est-il suicidé ?
Je me tourne vers vous, Isabelle Quintard. C'est pas facile de s'interdire, ou plutôt qu'on vous interdise la voix off. Parce que c'est parfois très utile, parfois c'est la solution de facilité, parfois c'est naturel, là vous n'y avez pas droit.
Oui, mais c'est vraiment un beau challenge parce que si vous voulez, vous laissez vraiment la parole brute et vous essayez de respecter ce qui a été dit et en même temps essayez de rythmer tout cela parce qu'évidemment, on n'est pas dans un récit linéaire, il faut essayer de raconter une histoire qui va intéresser les gens et en même temps on avait un angle assez précis à respecter avec la thèse du suicide et de la cavale.
Mais je vois par là qu'en montage, vous avez dû passer du temps.
Oui, il y a
c'est
un vrai travail.
À vous facile.
Non, et le montard a fait vraiment un travail exceptionnel parce qu'il a rythmé en musique, avec des bruitages, du sound design. Vraiment, je tiens à insister sur le travail qu'il a fait. C'est vraiment, vraiment exceptionnel parce qu'on on y a passé beaucoup de temps et j'espère que ça se sent. Parce que c'était très important, justement, sans voix off. C'est plus compliqué. C'est vraiment moins simple. Moi, j'ai toujours fait de la voix off. J'ai vraiment l'habitude de ça. Et là, même pour moi, c'était une nouveauté. Mais c'était vraiment passionnant à faire aussi.
Voilà, on pense à Groland qui se moquait aussi ouvertement. Et pour combien de temps ? Voilà, c'est fini. Toutes ces voix-là, c'est terminé. 3 épisodes donc. Le premier épisode revient sur les assassinats en tant que tels. Les 2 suivants s'intéressent au sort de Xavier Dupont de Ligonnès. Et il y a 2 thèses. Soit il est en cavale, on va y revenir. Soit il s'est suicidé.
La conviction des policiers, c'est face à un tel massacre, il a dû se suicider.
La dépression, c'est un élément majeur dans cette affaire parce que c'est elle qui va finalement mettre le feu aux poudres. Et il ne fait pas de doute que Xavier Dupont de Ligonnès est dépressif et c'est ça qui va le ronger et qui va déclencher le passage à l'acte. Donc il est au bout du rouleau et il ne voit pas d'autre solution que la mort.
On vient d'entendre, je remets mon masque, on vient d'entendre Guy Huguenet qui est auteur d'un livre sur l'affaire et avant lui l'avocat de la mère et de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Isabelle Quintard. Qu'est-ce qui fait penser que ce père de famille ait pu se suicider ? C'est quoi les éléments ?
Mais on l'a entendu, c'est la situation financière, il est au bord du gouffre financier et puis il le dit souvent dans ses écrits qu'il se sent coincé, il cherche à obtenir de l'argent et à un moment donné il doit énormément d'argent à une maîtresse qui lui réclame, qui lui envoie les huissiers. Il risque d'être expulsé, il a plusieurs mois de loyer impayé. Donc là on sent qu'il est dans une spirale et c'est la fin, c'est comment faire. Donc c'est vrai que ça accrédite cette thèse du suicide parce que comment s'en sortir si ce n'est avec cette solution, à ses yeux, cette solution terrible quoi. De tuer sa famille.
Alors, thèse accréditée, thèse balayée. Autre hypothèse que vous explorez dans le dernier épisode, la cavale. Et là encore, il y a des éléments troublants qui laissent à penser qu'il y a une cavale.
Oui, il y a par exemple ce bornage mystérieux dans une cité où on ne sait pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a cherché à faire disparaître auprès des objets compromettants. On sait qu'il n'a plus gardé les portables, les ordinateurs, tout cela a disparu. Les enquêteurs ne l'ont pas retrouvé. Est-ce qu'il a cherché à obtenir des faux papiers parce qu'il a eu besoin d'une nouvelle identité s'il a voulu s'enfuir? Donc là aussi, on se dit, une cavale, c'est possible. C'est-à-dire que les enquêteurs se sont dit, il n'a retiré que 30 euros. Oui, mais peut-être qu'il a pu bénéficier de complicité. C'est ce qu'on essaie de montrer dans l'épisode 3. C'est peut-être qu'il a eu des complices. Donc on pose la question, on essaie de montrer tous ces éléments-là. Et effectivement, il y a quand même énormément de zones d'ombre par rapport à cette thèse.
En parlant de bornage, vous revenez également sur quelques points de l'enquête. Vous parlez notamment de l'analyse de ce téléphone portable de Xavier Dupont de Ligonnès dans les jours qui ont précédé les assassinats.
Nous savons aussi que son téléphone a borné pas loin d'un espèce de lac qui est dans Nantes.
L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il s'est débarrassé de matériel qu'il ne peut pas transporter, disons, au vu et au su de témoins éventuels.
C'est la voisine Gaëlle qui a vu Xavier de Ligonnès charger la voiture avec des gros sacs. Alors, elle ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans, évidemment, mais il y en avait pas mal, apparemment.
Ce qui explique que les enquêteurs n'ont rien trouvé, hein, ni les ordinateurs, ni... donc il a tout débarrassé.
C'est sûr que si vous jetez du matériel informatique dans une rivière, dans la vase, il faut déjà le retrouver. Une unité centrale qui est récupérée par quelqu'un, il y a un disque dur à l'intérieur, ça peut amener des révélations.
Est-ce qu'il a jeté ordinateur et téléphone portable dans le lac? Nul ne le sait puisque personne n'a été vérifié.
Ce qui est dingue, c'est qu'on découvre que cette piste n'a pas été explorée. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que les enquêteurs n'ont pas suivies ou pas explorées?
Non, ils ont essayé d'explorer un maximum de pistes, mais c'est vrai que ce bornage, c'est quand même un peu étonnant. Mais si vous voulez, ils m'ont expliqué qu'il n'y avait pas de témoins oculaires, donc ils ne sont pas allés vérifier davantage. Il y a peut-être d'autres pistes à explorer au niveau des mails qui ont été créés aussi. Ça, au niveau des enquêteurs, ils ont parfois aussi essayé d'exploiter certains signalements, mais ça s'est arrêté. Donc voilà, est-ce que peut-être un nouveau signalement pourrait permettre de relancer l'enquête? Ça, c'est ce qu'on attend.
Ils en sont où, l'enquête de police continue?
Elle est en attente, c'est-à-dire que ça n'est pas arrêté, évidemment, mais ils sont en attente d'un signalement. Ils sont en attente peut-être d'un nouveau témoin, de personnes qui pourraient se mettre à parler, parce qu'on se dit qu'il y a peut-être des gens qui savent des choses dans cette affaire et qui ne disent pas encore tout ce qu'ils savent.
Xavier Dupont de Ligonnès est-il encore en vie? Et s'il était encore en vie, c'est le titre du documentaire qui passe ce soir en trois parties sur BFM TV. On en parle avec Isabelle Quintard, c'est la co-réalisatrice de ce doc, et Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM TV. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Céline Pigalle, c'est la directrice de la rédaction de BFM TV, Isabelle Quintard. Elle signe une série de documentaires, elle co-signe Dupont de Ligonnès et S'il était en vie, point d'interrogation. Ce sont trois épisodes de 26 minutes qui passent ce soir sur BFM TV. Isabelle Quintard, il y a peu d'images de cette affaire, quelques photos tout au plus et quelques caméras de surveillance. Comment vous avez fait pour la mettre en image?
Alors, il a fallu reconstituer, donc imaginer des scènes, et utiliser même des décors comme une maison. On a pris une agence de location de décors de cinéma et puis on est allé tourner. Et j'ai imaginé à chaque fois des scènes qui pourraient permettre d'illustrer chaque moment. Par exemple, dans le premier épisode, la découverte des corps dans le jardin et surtout avec des
Alors,
accessoires.
J'avoue, me suis fait avoir. J'ai cru que c'était vrai. On dirait une VHS. On voit même la bande qui merdouille un peu, pardon pour le terme. Et j'ai cru que vous aviez récupéré les bandes de la police.
Non, l'idée c'était de crédibiliser au maximum l'image, ouais. Tout en restant honnête et en indiquant que c'était une reconstitution. Mais l'idée, c'était ça. C'était à chaque fois, on amène des accessoires, on imagine des moyens un petit peu pour raconter l'histoire telle qu'elle a été et pour mettre vraiment le public dans les yeux des enquêteurs. Voilà. S'imagine être les enquêteurs.
Et puis de nombreux témoignages, évidemment. Cette série documentaire a été réalisée et produite par la rédaction de BFM. C'est vous, Isabelle Quintard, qui l'avez réalisée avec Régis Conclois et Simon Terrassier. Céline Pigalle, pourquoi ne pas avoir fait, comme ça se fait souvent dans ces cas-là, sous-traiter cette série à une société de production, comme le font la quasi-totalité des chaînes?
Bon, tout simplement parce qu'on avait envie de s'en occuper nous-mêmes, parce qu'on avait envie d'aborder...
J'en pose la question, pourquoi aviez-vous envie de vous en occuper vous-même?
Parce qu'on avait envie d'aborder ces territoires-là. Finalement, BFM TV a commencé d'exister et a marqué les esprits avec la fameuse priorité au direct. Mm-hmm. Ce pourquoi on est crédité, c'est l'information en temps réel, au plus près du terrain. et pourquoi pas explorer d'autres champs et montrer que cette marque d'information, elle peut explorer toutes les promesses éditoriales et notamment les formats longs, notamment les enquêtes. Et puis vous savez, ça arrive de temps à autre qu'on nous reproche un peu d'aller trop vite, de passer trop vite aussi sur les événements. Et bien à travers ces formats-là, à travers les enquêtes, à travers les séries, on peut revenir sur des informations, on peut revenir en profondeur et du coup on avait envie de le faire nous-mêmes, on n'avait pas envie de demander à d'autres.
Est-ce que toute la rédac est mise à contribution? J'explique, quand c'est une société extérieure, sont les enquêteurs de l'extérieur. Tandis que là, vous avez un service police-justice. Est-ce que l'intérieur de la rédaction de BFM TV a aidé à ce documentaire?
Alors, il y a un service spécifiquement dédié au long format, aux enquêtes 26, 52, aux séries, mais qui évidemment travaille main dans la main avec le reste de la rédaction. Ça peut être en effet sur ce format-là le service police-justice, mais ça peut être aussi tous les reporters qui ont eu à travailler sur ces enquêtes, ça peut être le service politique quand c'est un documentaire politique. Donc évidemment toute la ressource de la rédaction est utilisée.
Isabelle Quintard, qu'est-ce qu'on apprend dans votre série documentaire de plus que dans les autres films réalisés sur le sujet ou que dans les livres, dans les enquêtes écrites sur cette affaire, notamment évidemment je pense à celle de Society l'été dernier, les deux numéros spéciaux qui avait été en rupture de stock, ce qui est assez rare pour être signalé dans la presse écrite.
Alors évidemment, il y a une base commune puisqu'on a à peu près la même source d'information qui est le dossier et puis l'accès aux témoins. Mais il y a des choses vraiment inédites, comme par exemple, on raconte un dîner dans le premier épisode, un dîner 3 semaines avant les meurtres, où Xavier Dupont-Ligonnès cherche à se renseigner sur la façon de se débarrasser des traces de sang. Et il demande ça à son gendre chasseur. Et il va aussi demander comment découper les corps. Vous voyez, donc c'est assez effarant. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas sortis avant. Il y a des témoignages, l'audition d'un homme qui a entendu les coups de feu, l'exécution méthodique. Voilà, il y a un certain nombre de choses à chaque fois inédites. Et donc j'invite vraiment les gens qui vont regarder ce soir à être attentifs parce qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas sorties ailleurs.
Céline Pigalle, il y a 5 mois, la première série documentaire de BFM a été consacrée à l'affaire Jonathan Daval. Elle avait très bien marché, un peu plus d'1 million de téléspectateurs, 4,1% de part d'audience en moyenne. La série avait été diffusée 2 fois en 2 soirées consécutives. Vous avez un objectif? Oui, vous avez un objectif. C'est lequel pour cette série sur Xavier Dupont de Ligonnès?
Faire toujours mieux.
Toujours mieux, donc plus qu'1 million.
On va espérer.
Quelles autres séries documentaires sont en préparation? Parce que j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là.
Alors, il y a une chose qui est connue déjà, c'est que nous travaillons sur la traque de Salah Abdeslam, qui est l'un des auteurs rescapés de la tuerie du Bataclan, des attentats de Paris le 13 novembre 2015. Et donc, ça, c'est un très gros projet. Il y aura le procès de ces attentats aura lieu à l'automne. Et donc, on a voulu revenir aussi sur ces événements. Puis, il y a une matière qui, sans doute, se prêterait bien l'année prochaine, en année présidentielle, à monter des séries. C'est la matière politique, évidemment. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit.
Le feuilleton au jour le jour.
Par exemple.
L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès inspire également vos concurrents. LCI propose un documentaire également ce soir. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites on a mis le doigt sur la bonne chose ou mince, pourquoi ils font comme nous?
Je me dis que comme d'habitude, nous sommes devant. C'est ça qui compte.
Ah bah tiens. Justement, un mot des audiences. En un an, entre mars 2020 et mars 2021, BFM TV est toujours devant, mais a perdu 1,3 point de part d'audience. Elle est passée de 4,1 à 2,8% d'audience moyenne. Est-ce que cela vous inquiète?
Alors absolument pas. En réalité, là, vous prenez un mois donné, et c'est vrai qu'il y a un an, on était au début de la crise du Covid, on était sur un moment parfaitement exceptionnel d'information, mais en réalité, les chiffres de BFM TV sur le début de cette année 2021, c'est 2,9% de part de marché, c'est-à-dire strictement la même chose que l'année dernière, qui est notre année record.
Voilà.
Sur 15 ans d'existence de BFM TV, on a fait 2,9% de part de marché l'année dernière. C'était le maximum de ce qu'on a pu atteindre et on est toujours en ligne avec ces chiffres. Donc non, je n'ai pas de raison d'être inquiète.
Dans le même temps, CNews a progressé d'un demi-point et l'écart entre les deux chaînes s'est réduit le mois dernier. Il n'était que de 0,9 points.
Je n'ai pas l'habitude. Quand on court, vous savez, ce n'est pas une bonne chose de regarder derrière soi. C'est une bonne chose de regarder devant soi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au niveau des grands piliers de l'information. Je vais vous raconter une anecdote. Hier, quand on apprend que la petite Mia a été retrouvée, ouais, le procureur annonce, dans la demi-heure qui suit, un point presse. À ce moment-là, on est sollicité et par TF1 et par France 2 pour nous dire, vous êtes sur place, est-ce qu'on pourrait racheter votre signal? Est-ce qu'on pourrait racheter vos images? Voilà, quand on est là, quand on est les seuls à être sur place au bon moment, dans l'urgence, quand on quadrille le terrain, le territoire, et que ça nous permet de faire remonter et les bonnes images et les bonnes informations, alors on est dans notre rôle. de leader des chaînes d'information.
CNews, dont les audiences ont progressé en un an, s'est clairement positionné comme une chaîne conservatrice, j'apprends rien. BFM TV a mis à l'antenne un peu plus d'éditorialistes conservateurs, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que disait Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV, il y a deux semaines dans le JDD. Est-ce que les chaînes info tendent trop vers la droite ?
Moi, je crois que ce qui est très important pour nous, BFM TV, c'est de refléter le paysage politique, de parler au plus grand nombre, et donc d'avoir en réalité des éditorialistes de toutes les tendances politiques. Ce qui est vraiment dans nos têtes en permanence, c'est la recherche de panels d'éditorialistes qui parlent à chacun, qui permettent à chacun de se positionner, qui permettent à chacun de se faire son opinion, et surtout pas d'être réduit à un seul espace.
J'ai bien compris. Merci beaucoup Céline Pigalle, merci Isabelle Quintard, Dupont de Ligonnès et S'il était en vie, c'est le titre de cette série. Personnellement, c'est quoi votre réponse? C'est quoi votre intime conviction?
C'est qu'il est vivant.
Céline?
La même chose, il n'a pas fait tout ça pour se suicider sans même qu'on le sache par ailleurs.
Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous toutes les deux. Dans un instant, on va parler de la 11e saison de la série Clem, qui est toujours vivante. Elle arrive ce soir avec un nouveau personnage joué par le comédien Lou Denis Hélion. On sera avec lui et le producteur Fabrice Renaud. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Lou Denis Hélion.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes comédien, vous avez découvert et apprécié dans la série Scène de ménage pendant 9 saisons. Vous étiez Cédric en couple avec Audrey Lamy. On vous a vu dans des fictions comme Les Petits Meurtres d'Agatha Christie ou Réunion sur TF1, c'était en 2020. Bonjour Fabrice Renaud.
Bonjour.
Enchanté.
Enchanté.
Je dis ça parce que vous êtes producteur, directeur général de la société de production Merlin. Donc Merlin, enchanté, on a dû vous le faire 50 fois dans les cocktails un peu arrosés quand il y avait encore des cocktails. Votre actu à tous les deux, c'est Clem, une série TF1, 3 fois 2 épisodes, donc 6. La nouvelle saison démarre ce soir à 21h. Tout d'abord, Fabrice Renaud, c'est quoi le pitch de Clem? Qu'est-ce qui se passe dans Clem?
Le pitch de Clem, c'est qu'aujourd'hui, Clem elle a retrouvé une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus cool, beaucoup plus solaire. Et puis, il va lui arriver un double choc. Premier choc d'abord parce que son fils va être accidentellement papa. Et donc, elle va se retrouver, comme vous le disiez tout à l'heure, accidentellement grand-mère. Et puis, deuxième choc, parce qu'elle va rencontrer un homme qu'elle va détester, mais qu'elle va aimer, qu'elle va détester, qu'elle va aimer, qu'elle va détester, qu'elle va aimer. On est sur la comédie romantique.
Ouais.
Et que cet homme, justement, c'est Lou Denis.
Bah oui, on commençait bien programmé cette émission. c'est la saison 11 de Clem. Quand elle avait démarré, elle était enceinte de 3 mois et demi à 16 ans. Elle a quel âge maintenant?
Aujourd'hui, elle a environ 33 ans. Et
elle n'est plus lycéenne.
Elle n'est plus lycéenne.
Parce que ce n'est pas comme dans Scooby-Doo, l'âge des protagonistes avance au fur et à mesure de la série.
Oui, exactement.
On va entendre la bande-annonce.
Merci pour l'opportunité.
Bon, moi, je n'allais quand même pas te laisser moisir à la photocopieuse.
T'es mon assistante, tu vas se marrer.
Maître Colina, enchanté.
Mais vous êtes partout, vous, c'est pas possible.
Non mais attendez.
Je peux pas, je dois aller chercher mes clés qu'un crétin a balancé dans la nature.
Cette année, vous allez passer votre bac.
Il marque votre entrée dans la vie adulte.
Quoi? Je suis enceinte.
Tu vas avoir un gosse à 17 ans.
Ce qu'il a fait, mon père.
Tu sais ce que c'est, toi, d'avoir un enfant à ton âge?
C'est à moi de décider.
Je fais tout de travers, là.
Mademoiselle Boissier.
Quoi encore?
Non, change rien. Vous êtes parfaite.
Clem revient lundi à 21h05 sur TF1.
Lundi à 21h05, c'est-à-dire ce soir. Lou Denis Hélion, qui est votre personnage, justement, cet avocat Mathieu Colina?
Donc Mathieu Colina, c'est un ténor du barreau. C'est un personnage assez génial parce qu'il va utiliser toujours des méthodes complètement improbables pour convaincre les gens, que ce soit dans son métier ou dans sa vie personnelle. Donc il est prêt à faire à peu près tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins.
Mais il est sympa ou il n'est pas sympa?
Il est super sympa. Ouais. Il est super sympa, mais aller un petit peu trop loin des fois.
Mais ça peut aussi être un goujat. Votre première rencontre avec Clem est assez romantique, quoique ça se passe à une fête, vous tombez dessus par hasard. Il y a un petit baiser. On écoute la suite.
Et du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Je vous appelle un taxi.
Ah bon, on s'arrête là?
Tout à l'heure, on se connaît à peine, on va pas précipiter les choses.
Ouais, d'accord.
En plus, vous avez trop bu, ce serait pas correct de ma part.
Ah non, mais faut arrêter avec ça, je n'ai pas bu, d'accord? Enfin, quasiment pas, je suis pas du tout ivre.
Non.
Et oui, donc ça démarre très fort, les deux personnages s'embrassent vite, je l'ai dit, mais Clem même voudrait aller plus loin, l'entendu, votre personnage veut pas. Tout ça pour lui sortir, je vais pas tout spoiler, mais quand même une blague de très mauvais goût quelques épisodes plus loin. Est-ce que c'est un goujat ou est-ce que c'est un gentleman?
Il sait pas trop, je pense. Justement, c'est un personnage, on sait pas encore dans les premiers épisodes quelles sont ses motivations à être dans la ville de Clem et de toute sa famille. Et donc, je pense que, en effet, Au début, c'est un peu une façade, en fait, tout ce côté extravagant. Et il va s'y perdre, en fait, justement, pour notamment les raisons qui l'ont fait venir dans cette ville. Donc, sans être un goujat, c'est quelqu'un qui fait des erreurs, qui a des faiblesses, tout simplement. Et oui, c'est son côté, voilà, un petit peu taré, c'est sans doute une façade.
Alors, il y a quelque chose qui frappe aussi, c'est une petite part d'érotisme, en tout cas de nudité, qu'on ne voyait plus à cette heure-ci, Fabrice Renaud, à 21h sur TF1. C'est une demande de la chaîne ?
Non, c'est pas une demande de la chaîne. Il y avait une demande de la chaîne qui était d'être beaucoup plus dans plus de réalisme, dans plus de vérité. Et donc, on est allé chercher à différents endroits de la vérité et du réalisme, mais notamment là aussi, effectivement. Oui.
Parce que là, il y a une comédienne entièrement nue. Je vous le reproche pas, mais on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps.
Non, effectivement. Non, il y a une comédienne qui est entièrement nue, mais parce que ça fait partie de la vie de tous les jours, quoi.
Oui.
Et le comédien aussi.
Le comédien. Ah, puisque vous en parlez, on vous voit plusieurs fois
important.
Torse nu. On a même droit à Lou Denis Elion. Un gros plan sur une autre partie de votre anatomie. On laisse aux téléspectateurs et aux téléspectatrices découvrir laquelle. Juste une question, vous avez fait beaucoup de sport en salle pour ce tournage ? C'est pas possible d'être comme ça, franchement.
Non, mais je suis très sportif. Voilà, ça fait très longtemps que je fais du sport, donc oui, il faut un petit peu d'entretien. Mais pour revenir sur cette scène de nudité, je tiens à dire que voilà, on était, c'est important, on était tous les deux nus parce que souvent on met que la nudité de la femme à la caméra. Et j'en ai parlé avec Lucie Lucas et je lui dis voilà, quand on fait l'amour, on est nu. Et donc je lui ai demandé si ça la dérangeait. Elle a dit bah non, il faut être réaliste et puis sur un principe d'équité, voilà, que ce soit pas que le corps de la femme qui soit exposé, bah on est, avec la production et le réalisateur, on était tous d'accord pour faire ça.
Lucie Lucas, c'est la comédienne. Votre personnage est Pat Clem avec un numéro digne de Tom Cruise dans Cocktail, avec du jonglage avec des agrumes. Là aussi, vous avez travaillé ou c'est votre proportion naturelle ou vous avez été barman dans une autre vie ?
Alors, j'ai pas été barman, mais en fait, j'ai pratiqué beaucoup de disciplines artistiques, et notamment les arts du cirque, donc la jonglerie, l'acrobatie, plein de choses, et je suis très content quand je peux l'exploiter dans les films que je fais.
On va parler du scénario et des arches narratives de Clem, parce que c'est le cœur du sujet quand on veut faire une série qui marche. Nous sommes avec Fabrice Renaud, c'est le producteur de la série, le comédien Lou Denis Elion, nouveau comédien au casting, c'est juste après ça dans Culture Média.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Lou Denis Elion, comédien que vous aviez vu, qu'on avait vu dans... Je trouve plus le...
Scène de ménage,
voilà, ça m'apprendra à faire les choses de mémoire sans scène de ménage. Et Fabrice Renaud qui est le producteur de Merlin qui produit Clem. Clem, c'est la 11e saison, ça y est, j'ai retrouvé mes fiches. On va revenir au scénario, aux arches narratives de cette saison, Fabrice Renaud. Il y a un clin d'œil aux pistes de départ puisque c'est Valentin, le fils de Clem, qui va être papa. La boucle est bouclée, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne pourra plus y avoir d'autres saisons après ça ?
Ah si. L'idée qu'en fait qu'on a eue, c'était surtout ce qui nous intéresse dans Clem, c'est comment est-ce que quand on a un problème, comment est-ce qu'on peut le voir à travers différents points de vue, point de vue des grands-parents, des parents et des enfants. Et là, la série s'appelle Clem. Donc en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est Clem qui va s'interroger sur qu'est-ce qui se passe quand j'ai un enfant qui reproduit le même schéma, qui fait la même chose que ce que moi j'ai fait. Donc en fait, c'était pas tant de se dire, tiens, refaisons de nouveau une histoire sur le bébé. C'était plutôt de se dire comment est-ce qu'on met Clem en face à la fois de ses contradictions. Et là, puisqu'on parle des âges, vous allez voir, à un moment, Clem fait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Quelque chose d'assez d'assez engageant et d'assez grave pour son fils.
Je l'ai vu, mais je ne le dirai pas.
Voilà, merci beaucoup.
Voilà.
Mais en tout cas, c'était ça qui nous intéressait. C'était vraiment cette partie-là. Et après, effectivement, c'est la paternité qui nous intéresse.
J'allais vous parler de ça. C'est plus la paternité que la maternité qui est mise en avant.
Ouais, tout à fait. En fait, on s'est dit qu'il n'y avait pas de séries, très peu de séries qui ont été faites sur la paternité. Et aujourd'hui, Clem, on veut vraiment essayer de se rapprocher encore une fois de beaucoup plus de l'actualité à chaque saison. Et ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est qu'on est en train de redéfinir le rôle des hommes et des femmes dans notre société. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait, dans Clem, intervenir là-dessus. Et on s'est dit, la paternité à 17 ans, ça n'a jamais été traité en série. En tout cas, moi, je n'ai jamais trouvé d'autres séries là-dessus. Et on s'est dit, tiens, bah, allons-y. Ouais. On y va là-dessus.
J'ai posé la question à Lou Denis Elion. Est-ce que c'est un sujet qui vous a engagé, qui vous a fait réfléchir, qui a changé votre vision de la chose ?
Excusez-moi, la paternité,
oui.
C'est ça ?
Oui.
Ah, mais il n'avait pas révisé.
Oui.
On n'a pas révisé cette question. C'est dégueulasse.
Alors, j'arrête d'être dégueulasse. Les audiences de la dernière saison, la saison 10, ont été un peu décevantes. Comment vous l'expliquez, Fabrice Renaud ?
En fait, quand on regarde aujourd'hui les audiences, comme vous le savez, parce que je sais que vous êtes très fort en audience.
Je suis pas très fort, mais on regarde et on les note.
Quand on fait ça, on essaie de regarder de façon beaucoup plus globale. Et donc aujourd'hui, on doit regarder les ménagères à la fois, on doit regarder aussi les 15-25 et les replays. Et il s'avère que justement en replay, on a fortement augmenté. Comme on est une série assez jeune aussi, puisque sur les 15-25, on fait 48,7%, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'un jeune sur deux qui regarde la télévision regarde Clem. Ouais. C'est une série hyper jeune. Quand on regarde ce genre de série, il faut qu'on regarde aussi les replays. Et sur les replays, on fait entre 800 000 et 1 million par épisode, ce qui est énorme. Et donc, quand on regarde le global, on se rend compte qu'en fait, effectivement, Clem est toujours très puissant.
Voilà, alors je vais le dire, ça a démarré en 2010, le final était à 6,4 millions. Je crois que le tout premier épisode était aux alentours de 9 millions. 26,8% de part d'audience. Et là, en septembre, la saison 10, que c'est des saisons, il y a deux saisons par année comme Koh-Lanta. En septembre, audience autour de 3 millions et 13,2% de part d'audience. C'était pas énorme, mais vous me dites que ça a été compensé par le replay. À la suite du succès de Clem, mais aussi de l'Instit en son temps, puis de Sam, puis de la Philo selon Philippe, rien que cette saison, il y a de plus en plus de séries qui se font autour du lycée avec des kyriels de personnages de profs, La Faute à Rousseau sur France 2 ou Le Remplaçant sur TF1 avec Joey Starr dans le rôle du prof qui a cartonné. Qu'est-ce que ça inspire? Vous y voyez quoi? Est-ce que c'est un sujet passionnant ou est-ce que vous voyez là plutôt un manque d'imagination de certains de vos collègues producteurs?
Non, c'est un sujet à la fois passionnant et puis bon, on va pas se mentir, il y a aussi, je pense, en vrai, une volonté un peu des diffuseurs de reconquérir le public jeune. Aujourd'hui, en fait, on a énormément de séries, énormément de propositions de séries, des séries très modernes. Avec l'arrivée des plateformes, ça monte encore et il y a beaucoup plus d'exigences. L'idée toujours est de s'intéresser à comment est-ce qu'on récupère tous les publics, comment est-ce qu'on se bat sur chaque cible.
Question au producteur que vous êtes, on ne dit plus des noms de séries, on appelle ça des marques. Et quand on a une marque forte comme ça à la 11e saison, c'est comme Opel avec la Corsa ou Volkswagen avec la Golf. Marque très forte, tout le monde connaît le nom. Qu'est-ce qui reste du modèle des débuts? Qu'est-ce qui reste de Clem dans Clem?
Il reste plein de choses de Clem dans Clem. D'abord, il reste trois comédiens. Il y a toujours
Victoria Abril et Philippe Lelouch ne sont plus là.
Victoria Abril et Philippe Lelouch, ouais, tout à fait, ne sont plus là. Il y en a d'autres qui sont passés. Il y avait Ryan Bensetti aussi qui a été là, qui est passé. Il y avait aussi Vinnie Dargo qu'on retrouve là dans Scène de ménage. Il y avait aussi on a toujours des comédiens qui sont fidèles. On a Marie-France Michel, donc c'est-à-dire Carole Richer, Jandel et Lucie Lucas. Et puis on a Agustin qui est là depuis maintenant, Agustin Galliana, l'excellent Agustin Galliana qui est là depuis saison 6.
Ouais. Il est là pour combien de temps, Lou Denis Hélion?
Lou Denis Hélion, il est là pour longtemps possible.
Il fait cette saison ou il peut rester?
On n'en a jamais parlé, mais moi j'aimerais qu'il reste.
Je vous écoute, allez-y.
Alors moi j'aimerais Lou Denis Hélion,
je vais lui poser la question à lui. Vous êtes là pour combien de temps, Lou Denis Hélion? Pour cette saison ou pour la suite aussi?
Pour une dizaine d'années à peu près, normalement.
Et les projets, Lou Denis Hélion, où en est votre projet d'écriture de biopic?
Mon projet de... Vous êtes très bien renseigné.
Merci. Non, je vais dire ce que c'est parce que c'est une histoire assez incroyable. Racontez de qui vous voulez faire le biopic, racontez l'histoire.
Alors, ça fait longtemps j'essaie de faire un projet, que beaucoup de gens essayent de faire un projet autour de ce personnage. Donc, c'est le chevalier de Saint-Georges, qui était l'un des plus grands compositeurs de la musique française et qui était métis, noir. Il est né d'une mère esclave et d'un père propriétaire terrien qui a décidé de lui donner une éducation aristocratique à Paris.
Comment un sujet à ce point, pardonnez-moi, comment un sujet à ce point dans l'air du temps, vous ne parvenez pas à le monter? Moi, j'ai tellement envie de voir la vie de ce type qui est... d'un mot.
Écoutez, c'est assez improbable parce que j'ai eu récemment, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais le retour d'une chaîne qui a dit que ce personnage était ni charismatique ni intéressant, alors que c'est un personnage hautement romanesque, historique parce qu'il a participé à la Révolution française, culturel parce que c'est un grand compositeur, et je ne sais pas pourquoi ça bloque. Il n'y a pas que moi qui a essayé de s'attaquer à ce sujet. Et je crois, hélas, que les Américains vont le sortir avant nous.
Et sans
donc
vous.
Je suis assez déçu. J'ai un peu honte, très sincèrement, pour nous, les Français, parce qu'on perd un personnage qui symbolise vraiment quelque chose d'énorme.
Je vous interromps pour dire que nous partageons votre déception. Merci beaucoup, Lou Denis Hélion, à l'affiche de Clem, la 11e saison qui démarre ce soir. Merci, Fabrice Renaud, vous en êtes le producteur.
Merci.
Heureux sur TF1. Culture Média continue. Il y aura le rappel des titres de 10h. On va recevoir Clémence Olivier pour le zapping du lendemain, Bertrand Chamerois pour l'écran de veille. Notre invité, c'est le trio 47 Terres pour leur nouvel album Légende entre pop et rap. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries.
Et vous d'ailleurs? Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor? Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.